Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Moi, ça a été mon cas, assez relax quand même, mais c'est pas grave, on est là à 18h pour vous offrir un excellent podcast, comme à mon habitude dans Marceau Soir. J'ai le plaisir de vous présenter des invités qui peuvent changer des vies parfois, on va se le dire. J'ai le plaisir de vous présenter Véronique Girard, qui est directrice générale de l'organisme Squat Basseville, qui est là avec moi. Salut Véronique.
Bonjour.
Merci d'être présente. Avec nous sur les ondes de Boulevard. C'est très sympathique de ta part. Et je présente ton collègue François Brouillette qui est là aussi avec nous. Salut François.
Bonjour.
Est-ce qu'on dit Brouillette ou Brouillet?
Brouillet.
On dit Brouillet. Parlez-moi de l'organisme Squat Basseville. Pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ce merveilleux organisme-là, c'est quoi exactement? Puis depuis combien de temps vous existez?
Dans le fond, le squat, on existe depuis 25 ans. Quand on a ouvert il y a 25 ans, c'était une maison d'hébergement pour adolescents qui se retrouvent en fugue.
Okay.
Donc, on accueillait que les fugueurs. À cette période-là, on était ouvert que la nuit. Avec les années, les besoins évoluent. Donc, l'organisme évolue aussi. On a rajouté à notre équipe deux travailleurs de rue. Fait qu'on a deux travailleurs de rue qui arpentent les quartiers centraux de la ville de Québec.
Okay.
Leur clientèle, c'est du 12-25 ans à peu près. C'est sûr qu'ils vont un peu en haut de ça aussi.
Quand ça a commencé, vous étiez juste un organisme qui recevait les gens la nuit pour dormir.
Les jeunes de 12 à 17 ans.
Les jeunes de 12 à 17. Puis là, les policiers n'avaient pas le droit d'aller là.
Les policiers considèrent que quand le jeune est chez nous, il est sous la supervision d'un adulte responsable.
Donc, c'est une zone neutre.
C'est une zone neutre. Okay. Ils ne considéreront pas en danger. Ils respectent le fait qu'avec ces jeunes-là, on doit créer un lien de confiance parce que quand j'ai commencé à faire ce travail-là, je me disais un jour, peut-être qu'il n'y aura plus de fugue, j'aurai plus de travail, puis c'est pas grave, je ferai d'autres choses.
Ouais.
Après 20 ans, je me rends compte qu'il va toujours en avoir, puis c'est régulièrement les mêmes jeunes qui reviennent. Fait que le premier qui arrive, il faut que je gagne sa confiance. C'est sûr que si les policiers viennent défoncer la porte à chaque fois, ça ne marchera pas parce qu'il ne reviendra pas la fois d'après qu'il va refuguer parce que pour eux autres, c'est une stratégie de survie.
OK. Donc, les policiers ont toujours respecté le fait que Squat Basseville, vous receviez des gens qui avaient quitté la maison, mais qui étaient avec vous, donc sous supervision, donc ils ne se pointaient pas.
Toujours respecté. Je n'irais pas jusque-là. On travaille super fort avec dans les dernières années. Il y a des années où ça a été plus difficile. On a des équipes d'enquêteurs jeunesse qui sont merveilleux à Québec, qui travaillent avec nous autres quotidiennement, qui vont m'appeler. Un tel, est-ce qu'il est présent? Oui, il est là. OK, on va lever le pied, on s'inquiète moins, on sait que tu le connais, on le sait que si moi je considère qu'il est en danger chez nous, je vais les appeler. Puis ils vont venir le chercher. Puis je vais avertir le jeune, je vais lui dire, moi je considère que tu ne vas plus assez bien pour que je te garde ici.
Ouais.
Fait que je vais appeler les policiers. Je t'avertis, je te le dis, je suis transparente avec toi. Fait que comme ça, le jeune, il n'est pas surpris quand il voit les policiers arriver, puis il a encore confiance en moi. Il sait que s'il arrive dans un état raisonnable, qu'il vient, qu'il dort, qu'il se lave, qu'il mange, puis qu'il ne se met pas en danger, j'en ferai pas de signalement.
OK. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de partir à cet organisme-là?
Non. Moi, je suis arrivée il y a 20 ans. À la base, là, c'est 4 étudiants en technique d'intervention en délinquance du cégep de Garneau, qui ont travaillé avec une table de quartier ou une table de concertation qui se sont dit, il y a un besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins de ces jeunes-là, les jeunes qui se retrouvent en fugue, adolescents? Fait que c'est comme ça que ça a parti, avec ces quatre jeunes adultes-là, dont Isabelle Têtu, là, qui est maintenant à la tête de SABSA. C'est 4 étudiants avec un homme religieux, dont je ne sais pas son rôle au sein du clergé à Québec, mais il était religieux. Puis à cette époque-là, on a ouvert nos portes dans le presbytère de l'église Saint-Roch. En 2012, on a déménagé là, dans des nouveaux locaux. On est au coin Saint-Anselme, Notre-Dame-des-Anges. Puis c'est ça, quand je disais qu'on fait évoluer les services, maintenant, on a 17 logements sociaux qui sont au-dessus de la maison d'hébergement pour des 18 à 25 ans qui se retrouvent à la rue ou qui sont à risque imminent de s'y retrouver. Donc, des fois, c'est des jeunes qui sont chez nous en bas, qui vont atteindre leur majorité puis qui vont transférer en haut dans les appartements. Mais des fois, c'est des jeunes qui sont tout simplement à la rue ou qui sont en sortie d'institution, qui vont se retrouver chez nous puis qui vont avoir un appartement à loyer modique.
OK. Vous trouvez votre argent comment?
on est bon pour quêter. Je fais des demandes de subvention. C'est sûr que j'ai un montant qui me provient du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est le programme de soutien aux organismes communautaires qui me fournit pas la moitié de ce que j'ai besoin. J'ai Centraide, j'ai diverses fondations qui sont avec nous, mais c'est pas tout du financement récurrent. Une grande partie de mon financement, c'est du financement annuel, donc à chaque année, il faut que j'aille rechercher du financement pour payer là, tous ces employés-là.
T'aimerais-tu ça être libéré de ça, Véronique, à un moment donné, pour ce qui est du squat Basse-Ville, parce que c'est un organisme qui est bien connu à Québec, un organisme qui est extrêmement apprécié, c'est un organisme qui grandit. Est-ce que t'aimerais un jour que d'arrêter de passer tout le temps pour des quêteux, parce que ce que vous faites, c'est aider le monde?
Bien, moi, ce que je voudrais, c'est qu'à un moment donné, on soit autonome financièrement, que le gouvernement nous dise « oui, on vous finance, mais à la hauteur des besoins qu'on a réellement ». J'ai plus envie, à un moment donné, que mes employés soient des employés à crédit, parce qu'ils n'ont pas des salaires dignes non plus. Là. Un employé dans le réseau versus un employé dans le communautaire, il y a une différence flagrante de salaire en rentrant. Là.
Ça peut ressembler à quoi, mettons?
Moi, mes intervenants rentrent à 23,15 $
versus 26-28
un intervenant dans le réseau qui rentre. Fait que, il
y en a un qui est syndiqué et l'autre, il ne l'est pas?
Oui. Aussi. S'il y en a un qui est indexé par le gouvernement, tu sais, moi, l'indexation que le gouvernement va me donner cette année pour le programme de soutien aux organismes communautaires, c'est 2,7. Ça couvre pas les augmentations de salaire qu'on donne aux intervenants parce que ça n'a pas de bon sens de lui donner juste 2,7. Puis, tu sais, ça, c'est parce que le PSOC indexe, parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui n'indexent pas. Fait qu'année après année, je reçois le même montant, mais mes intervenants gagnent un peu plus cher. Fait qu'il faut que j'aille chercher des graines ailleurs pour combler cet écart salarial-là. C'est sûr que si un jour on est financé à 80 par le ministère, puis que je vais chercher 20 chez des bailleurs de fonds comme Centraide qui financent à la mission, et c'est merveilleux, là. Quand on me finance pour faire ce que je fais, puis que c'est pas un projet novateur, c'est merveilleux. On vous fait confiance, vous faites de la job, on vous paye pour, puis... Cassez-vous pas la tête, l'année prochaine, le financement va être encore là.
Parce que vous êtes comme le dernier rempart. Après vous, il n'y a plus rien. Là.
Non. Non, non. Surtout à ce niveau-là, non. 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 Tu sais, si moi, je mets un jeune à la porte...
Il n'y a plus de place.
Il n'y en a plus. Là,
c'est fini.
C'est ça. Fait que, tu sais, c'est rare que j'ai à mettre un jeune à la porte. Ouais. Quand j'ai à le mettre, parce qu'il y a une sacrée bonne raison, puis rendu là, je vais avertir les instances que ce jeune-là peut même plus venir chez nous, là.
Pendant toutes ces années-là, on peut dire que combien de gens qui se présentent au squat Basse-Ville par année, mettons?
Grosso modo, on va venir en aide à 200 jeunes différents par année dans tous nos volets de service. Tu sais, puis... Venir en aide, on a un suivi avec ces jeunes-là. Tu sais, pas juste un salut, bonjour d'un travailleur de rue ou salut, je viens prendre un verre d'eau, je mange une collation puis je repars. Des jeunes avec qui on va avoir une relation qui va s'être créée puis qu'on va accompagner dans un cheminement. Le cheminement qu'eux autres veulent aussi, là. Tu sais, on ira pas au-devant nécessairement des jeunes. On va voir qu'est-ce qu'ils ont besoin puis c'est à ces besoins-là qu'on va répondre. Fait que c'est 200 jeunes différents, grosso modo, par année. Là.
Puis est-ce que c'est des jeunes qui peuvent rester là année après année?
On a. À la maison d'hébergement, là, je vais commencer par la maison d'hébergement, on a 4 lits qui sont des nuits d'urgence. Fait que ça, c'est mes lits pour mes jeunes en fugue. C'est des nuits où chaque nuit est un séjour. Fait que dans le fond, le jeune arrive le soir, il vient se coucher, puis le lendemain matin, il va requitter, il va défaire son lit, puis il va partir. Puis dans la journée, il a le droit de revenir manger, il a le droit de venir nous rendre visite, il a le droit de venir parler avec un intervenant. Si le matin, on voit que sa situation est so-so puis qu'on n'est pas sûr où il va s'en aller, on va le garder avec nous. On va travailler avec lui, on va stimuler son ambivalence à retourner. On va essayer de voir avec lui s'il y a des choses qui feraient qu'il retournerait puis qui feraient qu'il, peut-être qu'il ne refuguerait pas la fois d'après. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qu'on va explorer avec eux autres. De plus en plus, avec les années, je pense qu'on s'en vient bon là-dedans. Là. De plus en plus, on a des fugues qui vont se résoudre au squat, puis qui vont retourner, puis qu'on va mettre des choses en place pour la suite des choses. On a aussi 6 lits qui sont en prévention de l'itinérance. Fait que c'est des jeunes qui se retrouvent chez nous en évaluation de signalement par la DPJ. C'est des jeunes qui se retrouvent chez nous trop vieux pour être institutionnalisés en centre de réadap, par exemple, mais que de rester dans le milieu familial, c'est pas sain. Mais ils ont une démarche d'autonomie à faire. Puis ils vont avoir 18 ans dans un an, ces jeunes-là. Puis dans un an, ben, il faut qu'ils soient autonomes parce que papa et maman ne seront pas là. Parce que papa et maman sont déjà à peu près pas là. Fait qu'on s'occupe de ces jeunes-là pendant la dernière année. On va travailler avec eux autres pour qu'ils deviennent des adultes autonomes à leur majorité. Certains de ces jeunes-là vont transférer dans nos appartements puis vont continuer un suivi avec nous. On en a d'autres qui vont aller dans d'autres volets de logement social, des logements de partenaires qu'on connaît puis qui ont des places. On en a qui vont partir pour du privé puis que ça va super bien aller. Fait qu'on a des jeunes comme ça. On a des jeunes qui viennent juste prendre une pause. Ça marche pas à la maison, on a des conflits, j'ai juste besoin de prendre l'air, je veux pas fuguer. Tu sais, dis à ma mère que je suis là, dis-y qu'on va se reparler demain, j'ai besoin d'une nuit ou deux de break.
Okay. Donc toi, tu peux servir d'entremise. Avec Squad Basseville, vous pouvez servir d'entremise entre le jeune fugueur ou le jeune adulte qui est chez vous, puis la famille.
Oui, on pourrait. Le jeune adulte, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ben, sont en appartement, ils ont signé un bail, ils sont chez eux. Fait que, tu sais, on va travailler avec eux autres. Puis si le jeune, tu sais, on va être l'entremetteur, si le jeune veut bien qu'on soit l'entremetteur. Tu sais, moi, je vais communiquer avec le parent ou avec le centre jeunesse ou avec la TS si le jeune me demande de le faire. Puis si le jeune me signe un papier qui me dit, gars, je t'autorise à les appeler puis à leur parler puis à leur dire que je vais bien puis à, je compterai pas de mentir. S'il me dit, appelle puis dit que je vais bien puis que je vois qu'ils vont pas bien, j'appellerai pas, tu sais. Mais je vais les appeler aussi au bout de 3 nuits, les tuteurs légaux. Si j'ai un jeune en fugue qui vient faire 3 nuits d'hébergement, bien, après la 3e nuit, je vais appeler le parent ou le centre jeunesse, si le jeune vient du centre, puis je vais expliquer qu'il a fait ses 3 nuits. Puis que là, il y a une période de carence où il ne peut pas revenir. Pendant 5 nuits, il ne pourra pas dormir chez nous. Mais qu'il peut revenir en visite durant la journée, il peut venir manger, il peut venir parler avec un intervenant. Fait qu'on va garder un visuel dessus. Fait que, tu sais, on est en constante communication comme ça, là, avec le centre. Si le centre, la police ou les parents nous appellent, on va leur dire qu'on a vu le jeune ou pas. Ou si le jeune est présent ou pas. Puis on le fait parce qu'on a confiance qu'ils viendront pas cogner à la porte pour dire, OK, on sait qu'il est là, on vient le chercher. Parce qu'ils nous font confiance.
OK. Et avec toutes les années que tu as passées au Squat Basseville en y travaillant, bien entendu, est-ce que tu as constaté que les besoins sont de plus en plus présents? Est-ce qu'il y a plus d'achalandage au squat?
Oui. Ah oui, oui.
Puis on explique ça comment?
On explique ça par... Il y a eu des baby-booms dans le temps. Avec les années, il y a des années où il y a plus de naissances. Bien là, on est dans une période où il y a énormément d'adolescents. On est dans une période où il y a énormément d'adolescents qui ont besoin d'aide, mais on a un réseau qui n'est pas capable de supporter ça non plus. Puis, tu sais, notre système de santé, services sociaux est comme ça. En tant que citoyen, si on a besoin d'aller voir un médecin puis qu'on n'en a pas, bonne chance. Je pense qu'on en parlait ce midi. C'est dur d'avoir un médecin, un sans rendez-vous si tu n'as pas de médecin de famille. Mm-hmm. Là, ben c'est la même chose. Si tu vas pas bien puis que tu n'as pas de médecin de famille, tu n'auras pas d'accès aux services de santé. Si tu vas pas bien dans ta tête puis que tu veux voir un psychologue, t'en as pour des mois sur une liste d'attente, que tu sois un jeune, que tu sois un adulte, que tu sois... Tu sais, il y a l'urgence. Il y a l'urgence psychiatrique, mais est-ce qu'ils sont tous à cette étape-là? Non. On est dans des années où nos jeunes ont vécu des moments difficiles. T'sais, tout le monde a vécu des moments difficiles dans les dernières années avec la pandémie, avec tout ce qui s'est passé. Les jeunes ne font pas exception. S'il y a quelque chose, c'est une clientèle qui a été plus amochés que les autres, qui ont été coupés d'un social qu'on... Tu sais, c'est insoupçonné, là, les effets que quand c'est arrivé, qu'ils pouvaient avoir sur ces jeunes-là, ben ouais. on le vit pleinement, là. Tu sais, moi, avec les années, c'est ça que je regardais dans les dernières années, il y a une augmentation de la violence et des actes violents par nos jeunes. J'avais jamais vu ça en 20 ans. Tu sais, moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, les jeunes que je côtoyais, c'était beaucoup des jeunes très profils, jeunes de la rue. C'était une criminalité de survie, les jeunes qui étaient. Ça faisait du squeegee. Ils trouvaient des moyens. Tu sais, je me souviens d'un jeune qui se faisait des pancartes, un câlin pour 25 sous, tu sais, puis il ramassait de l'argent de cette façon-là, puis il pouvait se nourrir, puis il pouvait aller prendre un souper à l'Aubrivière. Puis maintenant, j'ai l'impression que c'est plus une criminalité de business ou d'affaires. Ils vont faire des vols. Ils vont avoir des réseaux de prostitution juvénile. Ils vont vendre de la drogue. Ils vont faire des crimes violents en échange d'argent. Fait que tout ça fait que les besoins sont plus grands. Au niveau de la consommation, la plupart de nos jeunes ont un problème de consommation dans nos services. Ils sont à peu près tous pas en état d'être stable présentement. Ouais.
Tu sais, j'entends que tu n'es vraiment pas dans le jugement dans aucune des circonstances, puis que tu nous décris la situation. Le pourcentage gars-filles qui fréquente l'organisme Squat Basseville?
Je suis pas mal rendue à du 50-50.
50-50? Hey, j'aurais pensé que c'était plus des gars que des filles, moi.
Quand j'ai commencé, j'ai trois gars pour une fille, il y a 20 ans. Puis là, le balancier commence à être à l'équilibre. Là. J'ai autant de cas de filles qui vont pas bien que de garçons.
OK. Ouais. Puis des cas de gens, tu sais, sans être des spécialistes là, en psychologie, là, des cas de personnes qui ont... Tu sais, Véro, ça touche la santé mentale. Tu dis, bien, cette personne-là devrait être aidée par des médecins plutôt que de venir à Squat Basseville. Ça peut ressembler à quoi? Parce que quand je parle avec des policiers de la Ville de Québec, les interventions au centre-ville, c'est 80 % qui touchent la santé mentale, puis 20 % c'est vraiment des criminels là, qui ont fait de quoi de pas correct. C'est 80 % là, c'est, les policiers, c'est pas des psychologues, là, c'est pas des psychiatres.
Puis chez les jeunes, c'est à peu près les mêmes chiffres.
Même affaire.
C'est la même chose. Puis, tu sais, la consommation, les dépendances, c'est un trouble de santé mentale.
Ouais.
Tu sais, fait rajoute à tout ça. Puis, tu sais, tout jeune, il y en a qui vont avoir un suivi avec un pédopsychiatre, par exemple. Fait que toute leur adolescence, ils vont avoir un suivi. La transition à 18 ans, le système ne suit pas nécessairement. Fait que le jeune, il a un suivi jusqu'à sa majorité. Il arrive à 18 ans. Puis là, ça tombe dans sa cour à lui de faire des démarches pour avoir, continuer d'avoir des suivis, pour avoir sa médication. C'est pas facile.
Puis quand les jeunes se présentent chez vous, puis ils ont des problèmes de consommation, est-ce que... étant chez vous, puis ils sont dans un autre état second, vous les gardez quand même?
On va les garder avec nous si c'est léger à modéré.
OK.
Si mon intervenant de nuit, tu sais, la personne qui est là quand le jeune arrive, juge que l'état n'est pas satisfaisant puis qu'il est en danger entre nos murs, on va appeler les services d'urgence. Puis ça, les jeunes sont au courant à partir du moment où ils mettent les pieds chez nous. Si... j'ai pas d'infirmière, j'ai pas de médecin sur place, je peux pas faire une surveillance médicale adéquate. Si je juge que c'est ce que le jeune aurait besoin, ça va être le 911. Si le jeune arrive, qu'il a fumé un joint, puis qu'il a bien du fun, puis qu'il veut, il se paye un trip bouffe dans nos collations, puis qu'il va se coucher, j'en ai pas de problème. Mais si le jeune arrive dans un état où je vais être inquiète toute la nuit, qu'il soit couché dans son lit, même si je fais une supervision aux heures, aux 15 minutes, je le garderai pas. C'est l'entente qu'on a avec eux autres.
OK. Véronique Girard, tu es directrice de l'organisme Squat Basseville. Est-ce que... tu ramènes-tu la job à la maison des fois?
Trop souvent.
C'est possible des fois d'oublier la mère en toi pour tes jeunes qui fréquentent le squat?
T'sais, autant, moi j'ai des ados. J'ai un ado à la maison, un jeune de 11 ans, j'ai un ado de 17. Autant quand j'arrive chez nous, tu sais, mes jeunes que j'ai vus dans la journée me suivent aussi.
C'est tes jeunes aussi.
Tu sais, on fait ça parce qu'on a confiance que ces jeunes-là, ils ont du potentiel. Tu sais, on dit souvent qu'on n'est pas tous égaux dans la vie. C'est vrai. Il y en a qui ont moins de chance que d'autres dans le cheminement qu'ils vont avoir. Mais je pense que tout le monde naît avec un potentiel. Il faut juste qu'il y ait des gens qui soient là pour supporter ce potentiel-là puis leur dire qu'on a confiance en eux autres, puis ils vont faire des grandes choses.
Mmh.
Fait que j'espère un jour, puis je pense que je l'ai été, puis je pense que je vais continuer de l'être, puis que mon équipe va continuer de l'être aussi, être cet adulte-là qui va juste avoir à donner la petite poussée pour qu'un jeune prenne son envol, parce qu'ils ont tous le potentiel de le faire. Ils ne le savent juste pas, parce qu'il n'y a pas personne qui était là pour leur dire pour la plupart. Puis... t'sais, quand je regarde mon rôle de maman, ben mon rôle de maman dans ma vie, c'est ça. T'sais, c'est de dire à mes deux garçons à moi qui ont du potentiel, puis que j'ai confiance en eux autres, puis qu'ils vont réussir, puis que je vais leur donner les outils. Ben mes gars sont conscients qu'ils ont cette chance-là aussi. Mais t'sais, ça arrive des fois que la journée est tough, puis que maman revient à la maison, puis elle a le cœur gros, puis elle est fatiguée, puis qu'elle en a jusque-là. Ben mes gars sont en arrière de moi là-dedans, puis ils savent que ces jeunes-là, ils n'ont pas une vie facile. Fait que, tu sais, on essaye d'instruire ça aussi. Tu sais, mes garçons sont très conscients, c'est à ça. Mais je fais souvent le parallèle. À quel point je suis chanceuse d'avoir les enfants que j'ai là en bonne santé, avec qui ont justement pas ces problèmes-là, puis qui ont... Puis en même temps, je mets les outils que je vois qu'il y en a d'autres qui n'ont pas, pour que mes enfants finissent pas là non plus. Mais tu sais, des fois, ma journée est juste épuisante aussi, parce que je suis l'intervenante, mais je suis la maman, puis je suis la boss de 20 autres personnes qui ont... Puis j'ai à les supporter là-dedans, parce qu'eux autres non plus, leurs journées sont pas tout le temps faciles. Là. C'est eux autres qui, à tous les jours, vont travailler avec des gens qui vont pas bien. Parce que c'est ça notre travail aussi, là, c'est de travailler avec des gens qui vont pas bien tout le temps.
Ouais.
Fait qu'à un moment donné, ça peut devenir pesant. Fait que moi, je suis là pour ramasser ça, puis être la boss qui écoute, puis qui met des mesures en place. On essaye de mettre énormément de mesures en place. Puis tu sais, je suis chanceuse, puis je le dis devant François, qui est membre de mon conseil d'administration, je suis chanceuse, j'ai un CA qui est là en arrière d'eux autres, puis qui met des mesures en place pour prendre soin d'eux autres, parce que comme les jeunes qui n'ont pas accès aux services, bien, nos intervenants n'ont pas plus accès aux services quand ils vont pas bien. Fait qu'on est obligé de mettre des mesures supplémentaires en place pour prendre soin d'eux autres.
C'est beaucoup de travail. Véro, ouais. J'aimerais t'entendre sur on va essayer de fouiller dans un sac de préjugés qu'on peut avoir, là. Qui sont les parents de ces jeunes squatteurs-là qui se sauvent de la maison? Est-ce que c'est toujours des gens qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie? Est-ce que c'est des gens qui travaillent pas? Ou est-ce que c'est des gens qui sont extrêmement riches, qui sont pas capables de s'occuper de leurs enfants? C'est-tu des irresponsables? C'est-tu des parents qui sont en amour avec leurs enfants, puis c'est juste que les enfants sont tannés puis ils sauvent? Le parent typique de quelqu'un qui se présente au squat, c'est quoi?
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est tout. J'ai des jeunes qui sont des enfants d'avocats, j'ai des jeunes qui sont des enfants de médecins, j'ai des jeunes qui sont enfants de travailleurs sociaux et d'éducateurs qui travaillent avec d'autres jeunes. J'ai des jeunes qui ont des parents qui sont sur l'aide sociale.
Pourquoi on avait ces préjugés-là, hein?
Pourquoi on a... Parce qu'on a des préjugés, puis qu'on est bon là-dedans au Québec, je pense, pour ouais. pas voir au-delà de ce qu'on pense être la réalité. Tu sais, moi, ces jeunes-là, quand je les regarde, puis tu sais, des fois, j'en ai, là, c'est des petits tannants, là. Puis ils arrivent, là, puis ils nous font graffiner, là, puis ils sont déplaisants, puis ils vont tester les limites comme n'importe quel ado, puis comme n'importe quel enfant. Puis qui vont saboter la relation que j'ai avec eux autres, puis ça vient nous chercher. Puis il faut regarder au-delà de ce comportement-là. Ce comportement-là, il est causé par quelque chose. Ce comportement-là est causé parce qu'on a des enfants qui ont des traumas complexes. Un trauma complexe, c'est un trauma qui est induit dans les premières années de vie. Les premières années de vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas répondu à un besoin fondamental quand cet enfant-là était tout petit, puis ça a brisé quelque chose en dedans. Bien, il faut regarder au-delà du comportement, puis regarder en arrière, puis se dire, Colin, t'sais, on n'est pas tous égaux, bien, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là, qu'on réponde à tous leurs besoins fondamentaux, puis qu'on soit là, puis qu'on les accompagne pendant toute la durée de vie qu'ils ont besoin. La majorité des Québécois, les parents vont être là au-delà du 18 ans. À 20 ans, 25 ans, là, quand moi, j'allais pas bien, puis que j'avais une passe-toffe, j'appelais maman, puis maman virait un peu d'argent sur mon compte de banque, puis je pouvais aller faire mon épicerie. À 18 ans, un jeune qui est désinstitutionnalisé, il n'y a pas ça, là, maman puis papa qui vont pouvoir virer un peu d'argent sur le compte de banque quand ça va pas bien. Ils n'ont pas ça, maman puis papa, qui vont lui montrer c'est quoi entretenir un logement, c'est quoi entretenir un appartement. Puis les services sociaux, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. C'est pas une vie normale d'être en centre jeunesse. Tu es avec 12 gars sur une unité. Rendu à 18 ans, quand tu quittes ce monde-là puis tu te retrouves tout seul dans ton studio sur Saint-Anselme, c'est pas facile, là. Bien, c'est pas une vie normale pour un enfant de vivre ça. Puis c'est pas une transition à la vie adulte qui est normale non plus. Tu sais, moi, ma transition à vie adulte, je l'ai vécue avec mes parents.
Ouais.
Ils m'ont accompagné là-dedans. Les jeunes qu'on a en logement, ils ont pas ça. Des parents qui vont les accompagner là-dedans. Il y en a que les parents vont être là puis ils vont supporter au mieux qu'ils peuvent. Mais ils peuvent pas tout à côté. Mais pour en revenir aux préjugés, pourquoi on en a tous? On en a tous pour plein de raisons, puis on en a tous sur à peu près n'importe quoi, parce que je pense que des fois, ça nous fait du bien de regarder, puis on se sent mieux parce qu'on voit que l'autre va pas bien, puis on pense savoir pourquoi, tu sais. Fait que c'est sûr, tu sais, il n'y a pas un jeune qui va répondre à un moule. C'est pour ça que, tu sais, toutes nos interventions sont adaptées à chaque jeune différent. Fait que nos interventions ne seront jamais pareilles parce qu'il n'y a pas un jeune qui est pareil, puis il n'y a pas un jeune qui a le même cheminement avant, puis il n'y a pas un jeune qui va avoir le même cheminement après non plus.
Oui. Est-ce que, parce que tu parlais d'introspection tout à l'heure, de trouver la petite chose qui fait en sorte que cet enfant-là, il a une réaction qui va à l'encontre des fois de la raisonnabilité, là. Est-ce que vous trouvez des fois le bobo? Est-ce que vous êtes capable de mettre le doigt sur le bobo qui fait en sorte que le jeune dit « ben oui, c'est exactement ça mon problème, puis il faut que je travaille absolument là-dessus pour pouvoir peut-être avoir une vie meilleure? »
Des fois, oui.
Ouais.
Puis des fois, ben c'est pas nous autres qui va le trouver. Des fois, on va juste être la courroie de transmission vers le service qui va les aider. T'sais. Moi, dans le fond, le squat, là, je suis une maille du filet social. Puis, c'est pas avec mes 21, 22 employés que je vais pouvoir répondre à tous les besoins.
Mm-hmm.
Puis, on n'a pas toutes les connaissances non plus. T'sais, on est tous ou presque des intervenants sociaux de formation. J'en ai qui sont des proches aidants puis qui ont un bagage d'expérience qui fait que c'est des intervenants merveilleux. J'ai des diplômés au cégep en travail social, en technique d'éducation spécialisée. J'ai des bacheliers en travail social. Puis, avec toute cette gang-là, avec toutes nos têtes, on n'a pas toutes les réponses. Fait que des fois, ben il faut que j'accompagne ce jeune-là vers quelqu'un qui va avoir cette réponse-là. Fait que c'est ça notre job, t'sais, c'est d'aller créer ce lien-là. Puis des fois, c'est cette personne-là chez qui on va l'accompagner qui va être capable de mettre le doigt sur le bobo. Puis des fois, ben on a des jeunes qui vont mettre le doigt tout seul dessus aussi. Puis qu'à un moment donné, ils vont s'asseoir et vont dire là, je te déballe tout ça, c'est de là que ça vient. Puis faut que je fasse avec. Parce que même s'ils nous le déballent tout, ben ils vont vivre avec ça toute leur vie pareil. Fait que, t'sais, c'est de les outiller à fonctionner avec tout ça, t'sais. Mais...
Véro, on va faire une courte pause parce qu'après, je veux parler d'une histoire incroyable qui est arrivée au squat Basseville, qui doit te rendre fier d'ailleurs que ça soit passé au squat Basseville. On va parler avec François Brouillette qui a utilisé vos services. Puis par la suite, ben, c'est l'Empire contre-attaque. Il est devenu le patron du squat Basseville. Donc, on va en parler dans les prochaines minutes. Juste avant, pour trouver le squat Basseville, on vous trouve à quel endroit, comment on peut s'informer sur le squat Basseville. Puis on parlait tantôt des petites problématiques là, de monétaire. Si les gens veulent donner, est-ce qu'on peut donner à Squat Basseville?
Oui. Ouais. Oh, oui. On a une page Facebook. On a un site web. On a un téléphone. Les gens nous appellent. Ça nous fait toujours plaisir de leur parler. On a sorti dans les médias dernièrement. On en a eu plein d'appels. Des gens qui ont grand cœur puis qui sont super fins, qui veulent nous donner du matériel ou nous aider pour les jeunes. On est toujours contents de parler à ces gens-là. Fait que de nous appeler, de passer nous voir. Facebook, Internet, c'est pas mal les moyens là, de nous rejoindre.
Parfait. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Véronique Girard, qui est directrice de l'organisme Squat Basseville, ainsi que son collègue François Brouillette, à qui on parlera après la pause. Vous avez des choses à nous dire? 418-971-1021. 418-971-1021. On est en direct de Québec. On fait une émission complète avec la belle gang du Squat Basseville. Véronique Girard, qui est en studio avec nous, qui est directrice de l'organisme Squat Basseville, et son collègue François Brouillette, qui n'a pas parlé beaucoup dans le premier segment, mais qui n'aura pas le choix. On va lui poser les questions directement à lui. François Brouillette, salut.
Bonjour.
Merci d'être avec nous autres. Tu as commencé à fréquenter le Squat Basseville. Tu avais quel âge?
J'avais 15 ans.
Tu avais 15 ans. Puis tu as trouvé le Squat Basseville comment, toi?
Moi, à l'époque, c'était mes intervenants là, du gouvernail. C'est un centre de réadaptation pour jeunes à Beauport. Il s'était passé une situation et le gouvernail voulait pas me reprendre puisque je n'avais pas nécessairement de problématique là, qui cadrait dans leurs critères d'admission, on va dire ça comme ça. Mais mon intervenante de l'époque, Hélène Racine, m'avait déjà parlé de cet organisme-là, puis c'est comme ça que j'ai découvert comment il existait. Là.
Avant d'être au gouvernail, bon, j'imagine que tu avais des parents. Tes parents étaient où à cette époque-là?
Oui, dans le fond, mon père, c'est lui qui avait la garde là, de mon frère et de ma sœur, ma grande sœur, mon petit frère. Puis c'est ça, lui, il assurait il était notre parent, mais il était plus ou moins là. J'avais un petit peu de difficulté aussi avec la nouvelle conjointe à l'époque de mon père et ça brassait pas mal. Fait que mon père, n'étant pas une personne très qui aime les confrontations, souvent choisissait de simplement me dire ben là ça brasse, j'aimerais ça que tu quittes. Là. Fait que je quittais la maison. Et...
à 14-15 ans, il disait ça brasse, j'aimerais ça que tu quittes.
Ouais, ouais. Okay. Ouais.
Puis ta mère était où à cette époque-là?
Ma mère, mes deux parents viennent de Québec. Elle était moins présente, là, disons, pour la garde de moi. Mon frère, ma soeur avaient des contacts avec elle, mais moi, c'était un petit peu problématique. Là. Disons que même à jour, j'ai un peu moins de contact okay. avec ma mère.
Est-ce que tu avais des problèmes de consommation à l'époque?
Oui, oui, oui. Moi, ouais. c'était pas mal mon gros problème. Là. J'ai commencé à consommer, j'avais 11 ans.
11 ans?
Oui, ouais, exactement.
Tu sais que c'est un choc. Moi, j'ai un enfant de 10 ans. C'est mon ouais. bébé. En fait, c'est un de mes deux bébés. C'est mon plus vieux, mais c'est mon bébé pareil. Ouais. Il y a 10 ans, tu me dis, à 11 ans, tu avais des troubles ouais. avec la drogue. Ouais. Tu prenais quoi?
J'ai commencé pas mal tout en même temps. Là, j'étais en secondaire 1 à Saint-Charles-Garnier à l'époque. Et moi, je venais d'un milieu école privée au pensionnat Saint-Cœur-de-Marie. J'étais pas vraiment au courant de ce que c'était le pot ou toutes les autres sortes de drogues. Alors, quand j'ai commencé à fumer au début de l'année de mon premier secondaire, je savais pas vraiment c'était quoi. Pour moi, c'était comme une cigarette, mais qui faisait rire. Là. Fait que j'ai commencé comme ça, mais... Dès la fin de l'année, là, j'étais déjà rendu là, dans les méthamphétamines, un petit peu de cocaïne également.
Là. OK, t'étais dans le chimique.
Oui, ouais, exactement. Ça n'a pas été très long là, que je suis tombé. Puisque justement, je pense que tantôt, on parlait de préjugés. Ben, je pense que les préjugés, c'est un petit peu comme t'es pas au courant, fait que tu te fais des idées préconçues. Moi, je connaissais pas la drogue, alors j'ai commencé à consommer ça, mais pour moi, c'était... C'était normal. C'est pas nécessairement illégal ou... Je prenais ça pour m'amuser avec mes amis, puis je suis vraiment tombé dedans, comme on dit. Là.
Mais t'as fait toute une ride, pareil?
Oui, quand même. Parce qu'à 14 ans, justement, mon premier séjour au gouvernail, ça a été parce que j'ai fait une psychose toxique.
Oh.
J'ai perdu contact avec la réalité là, durant quasiment 2 jours. Là,
c'est quoi une psychose toxique?
Véro?
Ben, c'est que dans le fond, c'est comme si le cerveau déconnectait parce que... c'est un effet de la consommation. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement parce que tu vas te rendre au point de l'overdose ou tu vas... C'est pas nécessairement selon ce que tu consommes, mais c'est comme si le cerveau perdait le... Tu le dis bien. Tu perds le contact avec la réalité.
Okay. Donc, tu peux t'imaginer des trucs qui n'existent pas
ouais.
dans ta des situations, par exemple. Ouais. Tu peux entendre des choses, que tu peux voir des choses.
Oui.
Ouais.
OK.
Oui. Non, moi, j'ai quand même assez des... J'ai des souvenirs de ces 2-3 jours-là. Là. Même à l'hôpital, là, une journée après, je divaguais encore. Je vous épargne là, le détail, là, mais c'était pas mal fantastique, mon affaire.
Ouais.
Puis oui, effectivement...
Mais j'ose pas imaginer ce que c'est, parce que toi, tu le vis, tu vois des affaires, tu entends des affaires, puis les gens qui sont autour de toi disent « Mais non, ce que tu entends là, c'est pas ça. Non. C'est pas vrai, ça existe pas. Ça doit être... » Puis là, tu deviens qu'à développer une crainte envers les gens qui sont devant toi. Tu es supposé leur faire confiance, c'est du personnel médical, mais ils entendent pas la voix qui est en train de crier. Toi, tu l'entends.
Oui, oui, oui. Puis c'est ça, moi, 3 jours après, lorsque je suis revenu à moi, j'étais dans une chambre au gouvernail, la porte barrée. Je savais pas trop ce qui se passait, où est-ce que j'étais.
T'avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 14 ans.
14, t'as
ouais. Ouais. Fait que de 14 à 15 ans, je suis resté un an au gouvernail. Ensuite, je suis sorti et c'est là que j'ai découvert le squat. Là.
OK. Avec du recul, est-ce que c'était le bon chemin par où passer, le gouvernail?
Moi, personnellement, je vais vraiment parler de mon histoire personnelle. J'ai bien aimé les services, j'ai aimé les intervenants. Encore à jour, il y a une intervenante que j'ai des contacts plus ou moins réguliers, là, un professeur aussi de mathématiques, José, avec qui je parle quelques fois par
année. Parce que tu pouvais aller à l'école au gouvernail?
Oui, oui, okay. Ouais, exact. Puis c'est vraiment, moi, mon expérience a quand même été positive. Là. Je sais qu'il y a des histoires parfois avec la DPJ et tout, mais moi, personnellement, ça a vraiment été positif. Ça m'a donné mes premières armes pour combattre ma dépendance. Là. C'est là que j'ai découvert aussi les narcotiques anonymes, divers groupes, que j'ai fait une thérapie, Centube Alvineuve ou le portage. Fait que, c'est vraiment... moi, ça m'a aidé. Et ça m'a mis en contact aussi également avec, je pense, les bons intervenants pour pouvoir m'épauler.
Mais tu prenais de la drogue parce que au départ, tu me disais, bon, ben je prenais de la dope parce que tout le monde prenait de la dope, parce que c'était normal, je m'amusais. Mais après ça, tu t'es rendu compte que tu avais une dépendance. Tu n'étais plus dans le plaisir de juste prendre de la dope, c'est que ton corps en demandait constamment.
Oui, puis ça m'a vraiment compliqué la tâche là, du niveau études aussi.
Ouais. Tu trouvais l'argent où?
C'est ça. Moi, mon père était pas très présent, mais monétairement, il était quand même présent. Puis j'ai commencé à travailler également à 12 ans.
OK.
Fait que j'ai toujours travaillé.
Fait que tu travaillais pour ta drogue?
Oui. Puis très vite, je pense que j'ai arrêté l'école à 16 ans, 15-16 ans. Fait que c'est ça. Je travaillais déjà temps plein.
Puis tu as arrêté la drogue à quel âge?
Je vous dirais que j'avais à peu près 22 ans, 23 ans. Là.
OK, quand même. 21. Puis c'est à 16 ans que tu as découvert le squat?
Vas-y. 15 ans. Ouais. Mais tu sais, avec la consommation de drogue, c'est beaucoup de... Tu sais, j'ai arrêté vers 22 ans, mais il y a eu des périodes que j'arrêtais, je recommençais, des rechutes qu'on appelle. Fait que tu es rendu à l'âge de 20 ans environ, c'était déjà moins problématique là, dans ma vie. J'ai fait des rechutes, mais vraiment dire que j'arrête, c'était vraiment vers 22-23 ans là, que j'ai arrêté. Je suis retourné à l'école, j'ai fini mon secondaire, cégep. J'ai fini mon secondaire, rentré candidat adulte à l'Université Laval et ensuite cégep.
C'était qui tes pères au squat quand t'es arrivé? Les gens qui étaient dans la même situation que toi, c'était qui? Ils venaient de où? Leurs parents, ils étaient où? Des problématiques?
Souvent, j'y allais sporadiquement. Alors, c'était beaucoup de personnes qui changeaient, que je ne revoyais pas. Et je vais être honnête, je me souviens pas tant de... Je me souviens plus des intervenants de l'époque.
Okay.
Marcus, José, Véro, Lisandre.
Tu t'es pas créé... On en a qui se créent un réseau. François a eu cette... Je sais pas si c'est ton instinct de survie ou si c'est... Mais François ne s'est pas créé nécessairement un réseau de pères du même âge que lui qui vivaient les mêmes problématiques.
OK.
Puis, tu sais, je t'écoutais tantôt, puis tu as été un grand bout où tu as été un consommateur fonctionnel.
Mm-hmm. Oui.
Tu sais, à 16 ans, travailler, moi, je me souviens de l'époque du Jardin mobile, et tu travaillais fort.
Oui.
Puis tu te levais le matin, puis tu allais travailler, puis tu sais, tu as eu un parcours un petit peu atypique.
Ouais.
Tu sais, on en a quelques-uns comme ça, là, qui ont des parcours un peu plus atypiques. Oui, il y a un problème de dépendance, mais... Colin, il fonctionnait pareil.
Ouais.
Il se levait pareil le matin.
Oui, je faisais des semaines de 50-100 ans au Jardin mobile. Puis... effectivement.
Puis t'habitais où?
J'habitais à Beauport.
À Beauport.
Oui.
Puis t'avais besoin quand même du squat?
Oui, ben parce que c'était moi ma problématique, c'était vraiment que je me ramassais tout seul à la rue, puis je savais pas trop quoi faire. Là. Il y a quelques fois que je suis allé dans un motel, mais encore là, à 15 ans, c'était souvent du non, on ne trouve pas de chambre, non.
Ça, c'est parce que tu ne pouvais pas retourner chez ton père.
Exact.
OK. Ouais. Fait que là, tu disais, des fois, vraiment... tu prenais un motel, il ne voulait pas.
Ouais. Puis c'était vraiment, moi, quand j'ai découvert le squat, ça a vraiment été mon ancrage. Là. Lorsque la situation se présentait, puis ça arrivait quelques fois par année, là, j'allais au squat, là, même durant un
tu
moment.
Venais,
là.
Ouais, tu venais à In-N-Out pendant un bout quand il y avait un conflit, puis à un moment donné, là, tant qu'à In-N-Out, je peux-tu rester ici?
Mm-hmm.
Puis ça n'existait pas, ce programme-là, dans le temps. Là, je peux-tu rester ici?
Ça,
fait c'était... que, tu sais, quand je dis on évolue avec les besoins des jeunes...
Mais toi, quand t'avais ces questions-là, puis ça n'existait pas encore, tu devais trouver ça cruel de répondre non, là?
Ben, c'est pour ça qu'on n'a pas répondu non.
Ça devait t'arracher le cœur.
C'est pour ça qu'on n'a pas dit non. On a fait évoluer le service.
Ouais.
Puis on a créé, dans le temps, le programme a changé de nom, mais c'était le programme en vol. Fait que François était notre premier programme en vol, parce qu'on n'avait rien d'autre à y offrir.
C'est ça.
Fait qu'il a resté avec nous. Puis, tu sais, les logements étaient dans pile de choses à construire. Fait que François est resté en envol jusqu'à temps qu'il signe son premier bail dans nos logements puis qu'il monte en haut.
Okay.
Puis, tu sais, fait que tu as été un jeune de première. Là,
ouais,
premier envol, premier appart, premier jeune sur le CA.
Un ambassadeur.
Oui.
un pionnier.
Il fait un bon porte-parole. Mais c'est ça, tu sais, tu as été chez nous un bon bout. Puis même à cette période-là où tu restais chez nous, tu faisais ta petite affaire.
Oui.
C'était comme si tu rentrais chez vous le soir puis que tu avais plein de colocs qui changeaient tous les soirs. Puis tes figures référentes pendant ce temps-là, c'était les inters de soir, ouais. de nuit, de jour, puis tu faisais ton lunch le matin, tu partais travailler.
Ouais.
Comme moi, je fais chez nous, mais lui, il faisait ça chez nous.
C'est
au
ça, c'est vraiment une deuxième maison parce que moi, j'avais mes amis d'école, t'sais, j'avais ouais. mes amis de secondaire, t'sais, ça changeait pas. Là, t'sais, je m'associais moins, comme Véro le disait, là, aux personnes qui étaient là, mes pères.
Okay. Mais qu'est-ce qui t'attirait vers le squat Basseville?
Ben, le toit, la nourriture, ouais. le toute la structure, là, ça m'a quand même pris un certain moment à
me
responsabiliser. Ouais. Pis...
Un remplacement de maison bienveillante?
Oui, 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 carrément, parce que moi, même dans un motel, je mangeais au resto. Il y avait une certaine. Il y avait des notions que je savais pas. Puis l'argent, disons, je préférais la consommer que la mettre dans le loyer.
Ouais.
C'était vraiment là. Ça m'apportait une structure, un petit peu de une écoute aussi. Je me sentais moins seul. Puis je me sentais, disons, plus en sécurité aussi également. Là, parce que, je vais vous dire, vous promenez dans la nuit. Moi, c'était pas une affaire que j'aimais bien gros faire là, tout seul à 3 heures du matin. C'est sûr. Des fois, je me demandais où aller. Puis j'étais bien content d'aller au squat justement dans ces moments-là. Là.
Ouais. Ben, tes références étaient là. C'était ouais. des gens qui étaient bienveillants, tu avais de la nourriture là. Est-ce que ton parcours est un peu atypique, effectivement? Là.
Ouais.
Pendant ton parcours, as-tu rencontré des gens que tu dis, hey, ces gens-là, il y avait tellement de potentiel, mais malheureusement, ils ne se sont pas donné la chance, puis ils sont partis, puis des fois, tu les recroises. Moi, j'ai été à l'école secondaire Cardinal Roy,
okay.
Au centre-ville de Québec. Puis malheureusement, quand je vais faire un tour dans le quartier Saint-Roch, proche de la bibliothèque Gabriel Roy, j'en vois des collègues de classe. Qui sont là puis qui attendent le temps qui passe. Tu sais, des fois, ouais. Il fait moins 10, moins 15, puis ils chassent les mouches alors qu'il n'y en a pas de mouches, là, tu sais. Puis je me dis, mais Colin, au secondaire, ces gens-là avaient tellement de potentiel, t'es plus intelligent que moi, puis ils finissent assis sur un banc de parc à regarder le ciel puis à se demander qu'est-ce qui se passe, les extraterrestres vont-ils arriver, tu sais. Ça doit être cruel, des fois, de voir, tu sais, toi, t'avais énormément de potentiel. Je pense que les intervenants du squat Basseville s'en sont aperçus assez rapidement, mais il y en a d'autres aussi qui avaient du potentiel comme toi, qui avait peut-être pas le mindset que toi t'avais, puis qui s'associait avec les mauvaises personnes, puis mm-hmm. qu'aujourd'hui, ben, sont peut-être en prison, sont malheureusement décédés ou sont autour de la bibliothèque Gabriel-Leroy.
Ouais. Oui, effectivement, j'ai quelques noms qui me viennent en tête, mais c'est, oui, des amis du secondaire, beaucoup,
ouais.
que, comme vous dites, là, des personnes que je me dis, ah, c'est sûr qu'ils vont être médecins.
Ah, ça nous arrache le cœur quand on voit
oui.
ça.
Puis, comme Véronique le disait tantôt, dont une personne en particulier, sérieusement, ses parents très riches, des bons parents, présents et tout, puis lui est tombé dans la drogue, puis c'était la même sorte de drogue que je consommais, mais lui, justement, après 2, 3, 4, 5 psychoses toxiques, ben il est tombé en état psychose permanente. Puis il y a des petits moments par-ci par-là qui se réveillent, on dirait, mais... En général, quand on l'écoute parler, on comprend rien là, parce qu'il est vraiment pas là. Il imagine, il hallucine. Fait que non, c'est triste. Puis je pense que moi, ça me fait rien que réaliser que j'ai vraiment eu de la chance. Puis je pense que oui, je me suis botté le cul, je pense, à des bons moments dans ma vie, mais c'est vraiment le support, je pense, qui a peut-être fait la différence. T'sais. Parce que quand t'es tout seul, justement, tu penses rien qu'à consommer. Puis moi, je me souviens m'avoir déjà dit, ben tu sais, je vais travailler au salaire minimum toute ma vie. C'est fini, l'école, pour moi. J'ai arrêté, ça fait trop longtemps. Je réussirai jamais à remonter cette pente-là. J'ai rien que mon secondaire 3, j'ai 20 ans. C'est comme... Moi, je me souviens de m'avoir posé la question puis de faire comme, est-ce que j'abandonne? Puis j'ai décidé que non. Puis c'est ça. Là, je suis rendu où est-ce que je voulais être dans la vie.
OK. Donc, t'étais au gouvernail. Après ça, t'as connu le squat Basseville. Ouais. T'avais des problèmes de consommation. Aujourd'hui, ça semble être réglé, de ce
ouais.
que je comprends. t'as fait ton secondaire. Par la suite, t'as été admis comme étudiant adulte à l'université.
Ouais.
T'as étudié dans quel domaine?
Dans le fond, moi, je voulais rentrer au baccalauréat en criminologie. J'ai réussi de rentrer au certificat en tant que candidat adulte après avoir fait un an de cours compensateurs, là, les cours du cégep. Je les ai faits à l'université, dans le fond. Et par la suite, là, après deux sessions là, dans le certificat, j'ai décidé d'arrêter puisque je travaillais temps plein et j'avais un petit peu de la misère à concilier là, l'étude en même temps. Là. Fait que j'ai décidé d'aller faire la technique. Je trouvais que ça allait peut-être plus simple pour moi. Puis,
technique sûr. Dans quel domaine?
Technique juridique, en fait.
Technique juridique. Ouais. Et puis là, tu travailles pour un cabinet d'avocats?
Oui, je travaille pour l'évêque, la voix avocat, là, sur le Bourgneuf, la même rue qu'ici. Là.
Quand tu regardes ton parcours, tu dois te dire, ouais, tabarouette. Je ne dirigeais pas ici.
Non.
J'aurais peut-être plus été client dans le temps.
C'est ça. Effectivement, non, c'est sûr que je suis rendu à 32 ans et des fois, je regarde en arrière et je me dis, ça aurait pu tellement virer de l'autre bord.
Ben oui.
Tu sais, des fois, je me sens... Tu sais, oui, j'ai fait des choix, mais en même temps, des fois, je me demande si c'était quasiment une loterie, là. Ça aurait vraiment pu virer différemment. Puis je trouve que présentement, dans ma vie tranquille chez nous, avec mon chum, mon chien, mon travail, tout est équilibré, tout est agréable.
Ouais, j'ai une belle vie aujourd'hui.
Belle famille. Oui, moi, oui. Non, puis justement, ça me fait penser à votre question de tantôt, c'est... Il y en a qui s'en sont pas sortis, puis des fois, c'est rien que le hasard. Une personne que tu rencontres au bon moment, qui a un coup de pouce que tu avais besoin, Véronique elle parlait tantôt, t'es le petit 20$ que les parents donnent, ou t'es le conseil, ou l'écoute, ou rien que l'amour inconditionnel, des fois, c'est rien que ça qui va faire la différence, puis je me considère très chanceux là, d'avoir aussi.
Je me souviens pas si ce que j'avais demandé au psychologue, je l'avais demandé en onde ou hors d'onde, mais je me souviens de sa réponse, je lui avais dit, t'sais, quand on est avec un gars qui a des problèmes de consommation, que ce soit l'alcool ou la toxicomanie, puis que il nous dit qu'il veut s'en sortir. Tu sais. Est-ce qu'il faut l'aider? Non, tu ne peux pas l'aider. Écoute-le. Puis tant aussi longtemps qu'il n'aura pas atteint les bas-fonds de son alcoolisme ou de sa toxicomanie, puis qu'il ne prendra pas la décision de commencer à se relever par lui-même, peu importe ce que tu vas faire ou ce que tu vas lui dire, ça ne changera rien. Il dit, écoute-le, tout simplement. Toi, si on t'avait donné un coup de pied dans le cul à 15 ans, est-ce que les choses auraient été plus rapidement?
Non, je pense pas. Je pense sérieusement, surtout à 15 ans. Comme je l'ai mentionné tantôt, j'étais plus ou moins proche de mes parents. Fait que pour moi, l'autorité, c'était plus une personne de qui je devais me méfier et non pas que je devais écouter ou que je devais suivre les conseils. Là.
Ah ouais.
Il y avait une certaine forme de rébellion là, et de méfiance, je pense, parce que pour moi, l'autorité ou les personnes qui devaient me protéger, ça n'a pas toujours été le cas. Fait que c'était comme... C'est ça. Je préférais être tout seul puis m'organiser tout seul que d'écouter ce que l'autorité avait à me dire. Ou...
Puis le squat Basseville représente quoi pour toi maintenant en 2024, avec du recul?
Avec du recul, c'est sûr, une famille. Chaque fois que je vais au CA, chaque mois que je retourne dans les locaux, c'est beaucoup de nostalgie, beaucoup de bons moments. J'ai vraiment été ça a l'air bizarre à dire, mais c'était vraiment là. Je me souviens entre autres avec
T'as
Marcus.
Le goût de lui demander s'il reste de la place à soir.
Ben oui, puis les lunchs dans le frigidaire, je suis toujours là, j'en prends pas, mais rien que me souvenir, les voir. Puis tu sais, il y avait les soirées, les nuits même que je passais avec un intervenant, Marcus, que l'avocat du diable avec Keanu Reeves puis Al Pacino, je me souviens même pas combien de fois je l'ai écouté, tellement que je l'ai écouté, mais tu sais, c'est des beaux moments de même, vraiment là, qui me restent. Beaucoup de nostalgie, je pense que c'est ça qui m'invite le plus.
Puis pourquoi t'as décidé de redonner au squat? Parce que là, tu donnes de ton temps en étant membre du conseil d'administration.
Oui. Oui, dans le fond, moi, à 18 ans, on m'a proposé de venir comme candidat représentant des jeunes sur le conseil d'administration. C'est sûr qu'au début, je me sentais un petit peu ambivalent. Je me disais, ah ben, je sais pas vraiment ce que je vais apporter, je comprends pas vraiment, puis je sais pas ce que je vais faire, là. Puis la personne à l'époque à la direction m'avait dit, ben non, mais essaye, puis garde, tu vas apprendre sur le tas, comme on dit, puis donne-toi pas de pression, sois rien que là, puis au fur et à mesure, tu vas comprendre. Et effectivement, tu sais, les premiers... Disons que mon premier mandat de 2 ans n'était pas celui où est-ce que je comprenais le plus, dont les états financiers, que même à jour, des fois, il y a des particularités que je comprends pas parfaitement, mais
tous en pas, hier, j'étais chez mon comptable, il me parlait, je faisais juste 5 oui, non, je comprenais absolument rien.
Mais c'est que là, je suis en suis à mon quatrième mandat.
Ouais.
J'ai fait 3 mandats, j'ai quitté et je suis revenu pour le mandat que je suis en train de compléter. Et ça a développé mes connaissances, ça a développé ma confiance, ça m'a aidé, je pense, à comprendre que je sous-estimais grandement mon pouvoir, comme on dit, de compréhension des choses. Là. Parce que encore à jour, dans mon travail, il y a une partie corporative chez l'évêque Lavoie Avocat et ça m'a vraiment aidé parce que lorsque j'ai vu des états financiers, je fais « Ah, ça, je sais c'est quoi! »
Ouais, mais il faut juste donner du temps au temps puis de se dire que si les autres ont été capables de passer par là, on est capable de le faire nous aussi. Mais il y en a qui comprennent très, très vite. Il y en a d'autres que ça prend un peu plus de temps. En bout de ligne, l'important, c'est de franchir la ligne puis d'être capable d'arriver là où on voulait arriver. Est-ce que, Véro, quand tu entends un discours comme celui de François Brouillet, qui est passé au squat Basseville, est-ce que ça te réconforte dans le travail que tu fais depuis des années et des années? Tu sais? Il y a François, mais il y en a plusieurs des François. Là. Oui, il est unique, mais il y a d'autres cas de gens qui sont passés par le squat Basseville. C'est ça, la vraie paye, dans le fond, pour les travailleurs dans le communautaire.
Oh, puis on se le dit tellement souvent. Tu sais, quand tu travailles dans le communautaire, tu te le dis, là, je le fais pas pour le salaire. Là. C'est sûr et certain. Tu le fais pour les merci, tu le fais pour la fois où tu en as un qui a sa maison, qui a sa petite famille, puis qui vient te présenter le bébé, puis que tu peux bercer le bébé du kid que toi, tu berçais quand il avait 12-13 ans, puis qu'il filait pas, là, parce que c'est ça qu'on fait des fois avec vous autres aussi. Tu fais ça pour, justement, le diplôme de secondaire 5. Moi, la première fois où j'ai eu un jeune qui résidait chez nous, puis qui a fini son secondaire 5, puis qu'il a fallu que j'aille acheter un habit de bal au Village des Valeurs, parce qu'il n'y avait pas personne pour y acheter un habit de bal, cet enfant-là. Puis comme organisme communautaire, on n'avait pas les moyens d'y acheter ou d'y louer un habit chez Ernest, là. Fait qu'on est allé au Village des Valeurs, on l'a habillé dans un saut qui faisait pas si pire, puis de prendre des photos de finissant avec cet enfant-là, mon Dieu, moi, j'en ai braillé toute la veillée. j'avais pas d'enfant dans ce temps-là, mais tu sais, c'est des moments comme ça qui restent que tu fais ça pour ça. Tu sais, à tous les matins, quand j'arrive, puis que... Là, c'est drôle, à 41 ans, puis « Bon matin, madame! » Tu sais, quand je rentre... Ouch! ça fait mal, mais en même temps...
Il n'y a plus de place, toutes les chambres sont louées.
Ouais, non, c'est... mais c'est pour ça qu'on fait ça, tu sais. Ouais. Pour le, tu sais, j'en ai une cette semaine qui est venue me voir, puis elle dit « Ah, je t'ai vu à TV! » T'étais belle à la TV, c'était le fun de te voir, puis c'était le fun de t'entendre parler, puis crime, merci, tu sais, j'étais comme, ah, ça fait du bien, tu sais, OK, c'est pour ça que je me lève le matin.
Ouais.
C'est pour ces moments-là, c'est pour ces relations-là qu'on crée, c'est pour François au CA que, ouais, quand t'étais tout perdu, là, à 18 ans, puis que, tu sais, ouais, mais je vais apporter quoi? Tu vas apporter une expertise qu'autour de la table, on n'a toutes pas. On n'a toutes jamais vécu ça. Jamais été en situation où on n'avait plus de chez nous. On n'a tout jamais été au centre jeunesse. Ben c'est ça que tu vas m'apporter. Tu vas m'apporter cette vision-là que moi, j'ai pas. Moi, j'ai appris sur papier que tel trouble de santé mentale, c'est ça que ça fait.
Ouais.
J'ai appris que telle drogue, c'est ça que ça fait. Mais je ne l'ai pas faite, l'expérience. Je ne l'ai pas vécu, moi, ça. Fait que
François, il est passé par là.
François, il est passé par là, puis il est capable de me le dire. Puis François, ben il teste mes services. Puis il est capable de me dire si ça fait un job ou pas. Tu sais, là, c'est François, mais c'est tous les autres qui ont passé après lui. Puis ils sont capables de me dire, bien, Crème, peut-être que si vous feriez ça comme ça, ce serait mieux. Parce que nous autres, dans notre grande tour d'ivoire, là, on les regarde aller, puis on se trouve bien bon, puis on se donne des tapes dans le dos. Mais des fois, on est peut-être dans le champ, puis on le sait pas. On l'a pas vécu. Puis tu sais, on a des jeunes qui nous le disent. Tu sais, moi, je me souviens tout le temps des jeunes qui entendent des voix. Puis qui me disent, ouais, mais tu peux pas comprendre, tu l'as jamais vécu. Non, puis Christy, que ça me tenterait pas. Ils ont tellement l'air de souffrir. Ça a tellement l'air souffrant comme problème.
Ouais.
Puis je veux pas vivre ça.
Écoute, j'avais écouté la représentation des gens qui faisaient des psychoses. C'est des scientifiques qui ont rebâti ça. C'était en anglais, mais je veux dire, les mots qu'ils entendaient, ces gens-là, dans leur tête, je veux dire, c'est aliénant, là.
Ouais. Fait que, tu sais, tu te dis. Ça me prend des gens qui vont me mettre des mots sur ces quoi ce véhicule-là, puis qui vont faire que je vais être capable de faire mon travail pour leur venir en aide, parce qu'en bout de ligne, c'est pour leur venir en aide qu'on le fait. Là, c'est pas pour moi, là. Fait que c'est ça. C'est la plus belle expertise qu'on a, c'est eux autres. T'sais, oui, c'est le fun d'avoir un comptable autour de la table, c'est le fun d'avoir un technicien juridique qui connaît les lois, Mais d'avoir quelqu'un qui a du vécu, puis qui à tous les matins patauge dans ce que moi je fais, là.
Ouais.
Puis qui est là pour me mettre un A sur mon bulletin ou me mettre un C, puis il faut que je corrige ça, ben c'est...
Bernard Girard, si tu avais la chance de demander quelque chose pour le squat Basseville, pour à la Ville de Québec, au provincial ou encore au fédéral, vous auriez besoin de quoi présentement?
Des salaires décents, des budgets décents. Tu sais, on a construit une grosse bâtisse en 2012 parce que ça prenait une grosse bâtisse parce que où on était peu adapté. Là. Il y avait toute une histoire de régie d'incendie. Puis c'est facile de construire de la brique puis du béton. Mais construire de la brique puis du béton pour faire travailler pour mettre des jeunes qui vont pas bien dedans, ça prend des intervenants pour travailler. Ben ça, c'est plus dur d'aller chercher ces sous-là. Fait que, tu sais, moi, ce que je nous souhaite, c'est des sous pour être capable de bien fonctionner puis que je puisse engager des gens qui vont avoir confiance que l'année prochaine, ils vont avoir encore une job parce que cet argent-là va revenir l'année prochaine, pas va revenir. Puis pour nos jeunes, ben je leur souhaite que... quand ils tendent la main, puis tu sais, le psychologue qui disait écoute-les, ben il faut que tu sois là pour les écouter. Au moment où ils ont envie que tu les écoutes, ben j'espère que tous ces jeunes-là auront quelqu'un à un moment donné pour les écouter quand ils vont dire qu'ils ont envie d'arrêter. Parce que la journée où ils disent qu'ils ont envie d'arrêter puis qu'ils ont atteint le fond, s'il n'y a pas personne, c'est là que c'est inquiétant. Fait que moi, j'espère que ces jeunes-là vont toujours avoir quelqu'un, mais pour qu'il y ait toujours quelqu'un, il va falloir que notre système change. Parce que notre système, il va pas bien. Fait que les gens peuvent pas bien aller si le système va pas bien. Fait que j'espère qu'un jour, on aura un système qui fonctionnera bien.
Véronique Girard, François Brouillet, merci beaucoup de faire ce que vous faites. François est passé par la maison Squat Basseville, mais toi, tu y es comme intervenante depuis des années, des années. Vous êtes un plus pour la Ville de Québec. Les citoyens de Québec peuvent se compter chanceux. Les enfants qui sont passés par par le Squat Basseville peuvent se considérer chanceux que vous fassiez ce métier-là depuis des années, des années, même si, à mes yeux, à moi, vous n'êtes pas rémunéré comme vous devriez être rémunéré. Je ressens beaucoup d'amour dans votre travail puis dans ce que toi, tu as vécu avec le Squat Basseville. Ça vous définit beaucoup en tant qu'organisme puis en tant que personne aussi, tout ce que vous pouvez apporter à notre belle société. On vous trouve comment? Dans le cas où on veut s'impliquer dans le Squat Basseville ou on a besoin du Squat Basseville ou tiens, on est un donateur, on est en voiture présentement ce soir puis on se dit, garde, moi j'ai un petit 500$ de lousse, un 1000$ de lousse, j'ai des choses à donner. Je vous trouve comment sur les réseaux sociaux?
Le Squat a une page Facebook, Squat Basseville dans la barre de recherche, sur Internet, squatbv.com, par téléphone, 418-521-4483. Poste 101 si vous avez besoin d'un intervenant dans l'immédiat. Poste 102 si vous voulez me parler. Ça va toujours me faire plaisir. Si je ne suis pas là, on laisse un message.
Un message. François Brouillet, merci.
Merci à vous. Là.
Je souhaite de passer une agréable fin de soirée. Véronique Girard, merci.
Merci.
Véronique Girard est directrice de l'organisme Squat Basseville. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, vous aussi. Et on se rejase demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.